Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, l'émission de VNE sera un peu particulière. Il s'agissait de l'ouverture du colloque Écopital, l'écologie à l'hôpital, qui rassemblait une centaine de professionnels du milieu hospitalier et où Gilles Rouche intervenait en tant qu'entrepreneur avec de la part des organisateurs l'intérêt particulier pour son parcours au CJD qui agit pour une économie au service de l'homme et d'un vivant et non pas l'inverse. Nous vous laissons en compagnie de Gilles, chères auditrices et auditeurs, en vous souhaitant une bonne fin de journée.
Je suis de formation ingénieur et Marc-Antoine et l'équipe m'ont demandé de faire l'ouverture de ce colloque pour présenter le sujet de l'écologie à l'hôpital. Donc, pour commencer, je vais déjà planter un petit peu le décor de qu'est-ce que c'est que l'écologie. Donc l'écologie, il y a plusieurs définitions. Si on prend la définition littérale au début, le grec, oikos et logos, c'est la science de l'habitat. Donc un petit peu par extension, des lieux où l'on vit, donc l'étude des lieux où l'on vit, des lieux où il y a du vivant. Mais l'écologie peut être aussi dans une définition plus sociale, socio-écologie, et donc c'est l'étude des interactions entre la population, entre les hommes et l'environnement. Dans une définition un peu plus scientifique, c'est l'étude des interactions et des relations entre les différents organismes et leur environnement, donc les organismes vivants, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit l'homme. Et dans une définition plus politique, c'est le fait de mettre la préservation du vivant au centre des actions et des décisions politiques. Donc, par prééminence vis-à-vis de l'économie. Donc, c'est les différentes définitions qu'on peut donner à l'écologie. Quand on est sur le domaine politique, le mouvement de pensée qui place la préservation en priorité sur la biosphère, ça génère dans la perception de chacun des sentiments très très variés. Et le mot écologie, du coup, a une connotation qui peut dépendre beaucoup de chacun de vous, qui peut dépendre de celui qui en parle, qui peut dépendre du contexte, qui peut dépendre de ce qu'on a vécu le matin même. Et du coup, le mot écologie, il peut avoir une connotation très positive, il peut avoir une connotation très économique ou très négative, il peut avoir une connotation anxiogène, il peut avoir une connotation positive. Et ça, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, ça dépend de notre philosophie, ça dépend du moment, ça dépend de qui en parle. Ce qui est constant et qui est plus, je dirais, le domaine environnemental de l'écologie, c'est deux faits. Le fait qu'il y a le réchauffement climatique qui s'accélère et dont l'accélération est liée à l'homme. Je dis bien l'accélération, puisque les cycles climatiques ont toujours existé sur Terre, mais ce que l'homme induit, c'est la rapidité du réchauffement. Et puis la biodiversité qui est attaquée, et là c'est quelque chose qui est très vaste, la biodiversité est attaquée notamment par le réchauffement, mais par la pollution chimique, organique, etc., par la présence de l'homme dans des lieux de manière trop intense et où c'est néfaste à la biodiversité. Sur ces deux faits, il y a une évolution des connaissances qui est permanente. Et cette évolution des connaissances, elle fait que ce qu'on raconte aujourd'hui, des fois, c'est le contraire de ce qu'on a dit avant-hier. Ah ouais, parce que on sait des choses qu'on ne savait pas avant-hier. Et puis, il y a une chose qui est constante, par contre, c'est le bénéfice de la sobriété. Ça, c'est clair que si on est sobre, si on consomme moins, on aura moins d'impact. C'est assez évident. Et puis, il y a une chose qui est très importante sur le volet politique et social et socio-écologique, c'est l'impact des actions individuelles. En fait, les actions individuelles, elles sont pas forcément visibles par chacun de la même manière, parce que chacun n'agit pas de la même manière. Alors il y en a qui vont faire, par exemple, qui vont décider de consommer pas de viande, il y en a qui vont décider de ne pas prendre l'avion, il y en a qui vont décider de remplacer leur voiture par une voiture électrique, il y en a qui vont décider de consommer moins d'eau, il y en a, etc., etc. Et chacun ne va pas le percevoir de la même manière, et ce qui est positif, c'est la somme des actes individuels. Et je pense que c'est important de ne pas regarder l'autre par rapport à soi-même. L'autre, il fait des autres choix. Ben ouais, ok, mais il fait aussi des choix. Soi-même, on fait des choix et ils sont tous bons. Il n'y a pas des mauvais choix et des bons choix. Mais ce qui est important, c'est que la somme des actes individuels va permettre petit à petit au collectif et à la puissance publique de, elle aussi, encourager et agir. Alors j'en profite pour donner... Alors, c'est une vision personnelle, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Ma vision globale politique de l'écologie au niveau mondial, c'est que quand on regarde, si je prends trois grandes masses, la Chine, l'Europe et les États-Unis. En Europe, on aime bien souvent critiquer les États-Unis, surtout avec celui en ce moment qui est à la tête des États-Unis. Et où on dit, bah ouais, il est contre l'écologie. Ça, c'est un fait. Le monsieur, là, il est contre l'écologie. OK. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis n'avancent pas du point de vue écologique. Parce qu'en Europe, on a tendance à regarder les autres par rapport à ce que décide le gouvernement. Sauf que, oui, en Chine, c'est vrai. Le gouvernement décide, derrière, ça marche. On est d'accord ou pas avec le système politique, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la Chine, ils vont très très vite dans le domaine écologique. Ils ont installé l'année dernière plus d'énergie solaire que ce qui existait le 1er janvier dans la totalité du monde. Donc ils vont très très vite, parce qu'ils ont décidé. Les États-Unis, il y en a un chef là qui dit « je m'en fous », mais les Américains, ils font quand même, parce que les Américains, ils s'en foutent du gouvernement. Ils sont très individuels. La conséquence, c'est que les États-Unis avancent plus vite que l'Europe. Eh oui, malgré ce qu'on dit. Alors, dans le réchauffement climatique, il y a des grandes masses. Il y a la situation actuelle où ce qui impacte le plus le réchauffement climatique, c'est la production d'électricité. Là, c'est la masse mondiale. C'est au niveau mondial. Parce qu'au niveau mondial, la grosse part d'électricité, elle est faite à partir de fossiles. La deuxième part, quasi à égalité, c'est l'agriculture. La troisième, c'est la chaleur industrielle, c'est-à-dire la production de chaleur nécessaire pour le process industriel. Puis ensuite, on a le transport routier, le chauffage, les process industriels, les déchets et le transport aérien et maritime. Qu'est-ce qui est probable d'obtenir assez rapidement? Ben, ce qui est le plus facile à attaquer, c'est la production d'électricité. C'est très facile de changer et de faire en sorte que l'électricité, on la fera à partir de solaire ou d'éolien et de renouvelables. Ça, c'est facile à faire et ça peut se faire très vite. L'agriculture, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Beaucoup à cause du côté, on va dire, politique, et du côté lobby. Parce qu'en technique, c'est facile, mais c'est politiquement et socialement difficile. La chaleur industrielle, c'est beaucoup plus facile à obtenir, mais il y a des contraintes un peu de process, donc on n'est pas sûr que ça va avancer très vite. Le côté transport routier, très facile à obtenir, à éliminer toute consommation de fossiles pour le transport. Après, le chauffage, c'est très facile de le réduire énormément. Le côté process industriel, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, à la fin, on peut estimer que de manière très rapide, on peut arriver à diviser facilement par deux la consommation totale de fossiles. Et mais ça très vite, et puis un petit peu, ça va pouvoir continuer. Donc ça veut dire que notre impact, si on le veut, il peut très vite être divisé par deux. C'est quand même pareil. Alors, donc ça, je viens d'évoquer les différentes solutions, avec notamment la production de frais, l'agriculture qui se heurte au lobby des... Alors, pourquoi l'agriculture, c'est compliqué? Parce que ce qui pilote l'agriculture, ce n'est pas les agriculteurs. C'est les industriels qui produisent les produits pour les agriculteurs. En fait, c'est eux les chefs des agriculteurs. Donc, eux, ils n'ont pas trop intérêt à changer de modèle. La production industrielle, elle, ça devrait pouvoir avancer assez bien. Le chauffage, déjà, en remplaçant par des pompes à chaleur, on divise par 4 la consommation, donc ça va déjà assez vite. Et puis, il y a tout le chauffage qui peut être fait par le solaire. Transport maritime, il va pouvoir réduire. Alors, il va pouvoir réduire parce que vous avez peut-être vu, on commence à faire des cargos avec des voiles, des grosses voiles. Après, la plus grosse possibilité de réduction du transport maritime, c'est de moins transporter. Si on achète des produits en Europe au lieu de les acheter en Asie, il y aura moins de transport maritime. Transport aérien. Alors, transport aérien, juste pour donner une petite information, c'est pas le pétrole brûlé par les avions qui fait le plus d'impact climatique. C'est les traînées qu'on voit dans le ciel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant le Covid, le ciel était super bleu. Il faisait super beau. Et on avait un ciel tout bleu. Et l'impact climatique a été visible. C'est-à-dire que dans les données climatiques, sur les 3 mois qui ont suivi le Covid, on a arrêté d'augmenter la température. Donc c'est loin d'être négligeable. Les traînées, elles font 2 fois plus d'impact que le pétrole consommé. Il y aurait une possibilité de réduire l'impact des traînées, c'est de faire que le contrôle aérien, au lieu de prendre les routes les plus directes, oblige les avions, conduise les avions à passer dans les couches d'air les plus sèches. Ça fait faire un peu de détour et ça fait consommer plus de pétrole. Mais au final, on gagne. Donc, qui décide de le faire ?
Quand je me douche plus de 10 minutes, je pense à l'ours polaire que je bute. Quand je m'emmerde dans les bouchons, j'imagine un iceberg qui fond. Si je laisse ma télé en veille, je m'endors d'un mauvais sommeil. Et si mes nuits sont polissonnes, j'assume pas mon bilan carbone. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Quand je passe l'aspirateur, je pense à des kilowatt-heures. Quant à mon chat qui est tout fripon, c'est un tigre en voie d'extinction. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Je mange un fruit exotique, c'est pour qu'il reparte pas en Afrique. Une fois par an, quand je prends l'avion, je pense à l'ozone que nous avions. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Existe-t-il ce coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Si on est trop nombreux.
La biodiversité, elle est attaquée par les produits phytosanitaires d'agriculture. C'est la première cause d'attaque de la biodiversité. On parle beaucoup des abeilles, il n'y a pas que les abeilles, mais c'est un très bon indicateur. Le réchauffement climatique est la deuxième cause d'attaque de la biodiversité. Par exemple, le réchauffement des océans qui attaque les coraux, ça c'est lié au réchauffement. Les usages humains, ben oui, plus on utilise de la surface, et plus on empêche le biotope de fonctionner tout seul. Et puis toutes les pollutions diverses, alors je parle des mégots, les boues urbaines et industrielles. En ce moment, on parle beaucoup des boues urbaines et industrielles à cause des PFAS, mais c'est pas que ça. Les émotions de toute nature, les médicaments qu'on retrouve dans les boues urbaines, donc ça, j'en parle parce que ça vous concerne. Et je parle des mégots parce que ça me fait bondir chaque fois que je vois quelqu'un jeter le mégot par la fenêtre de la voiture. Parce que le mégot, il arrive à la mer. Il ne peut pas aller ailleurs que dans la mer, une fois qu'on l'a jeté dehors. Il ne peut aller que dans la mer. Il ne va pas se détruire. Il va aller jusqu'au bout. Et qui c'est qui va le retrouver dans son assiette? Nous tous. Parce que le poisson, il va bouffer le mégot, il ne va pas être détruit, on va le retrouver dans le poisson. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de jeter les mégots. Alors, le facteur agricole qui est un enjeu majeur, et les conséquences sur la santé, il y a une chose qui m'épate, c'est que on est tous, tout le monde est d'accord pour considérer que qu'il y a des conséquences, on voit que les abeilles, etc., sont atteintes par les produits phytosanitaires, et alors nous, on serait plus résistants que les abeilles. Ah bon? Voilà. Donc l'impact, il est évident. Donc là-dessus, une chose est sûre, c'est que tout ce que je dis là aujourd'hui, c'est l'état des connaissances d'aujourd'hui. Hier, on ne disait pas la même chose, et demain, on ne dira pas la même chose. Donc, il faut être humble avec la connaissance et humble avec ce qu'on raconte sur l'écologie. Les solutions, elles viendront petit à petit, à partir du moment où chacun est conscient qu'on peut faire quelque chose. Ce qui est important, je trouve, c'est par contre que la puissance publique a une action, à mon avis, très forte, c'est pour interdire ce qui est vraiment néfaste. Et là, il y a vraiment une notion pour moi de lobby qui est importante. On a mis 60 ans à interdire l'amiante, mais on est allé très vite à interdire les CFC. Il n'y avait pas les mêmes lobbies pour promouvoir les CFC que pour promouvoir l'amiante. Et puis aujourd'hui, c'est pareil avec les produits phytosanitaires en agriculture, les lobbies sont très forts. Mais quand on interdit quelque chose qui est néfaste, c'est vachement efficace. Les CFC, on les a interdits quand on a pris conscience dans les années 75 du trou de l'ozone. Ça a été interdit à partir du début des années 90. Dès 2000, le trou d'ozone s'est reconstitué. Donc c'est vachement vite efficace en fait. Alors, le bénéfice de l'efficience, ça je pense c'est évident. Plus on est efficient, mieux c'est. Parce que on va moins consommer de ressources pour être tout aussi efficace. Donc d'éviter le gaspillage partout où on peut l'éviter, c'est forcément efficace. L'innovation, ce qui est marquant, c'est que l'innovation, elle ne vient jamais des acteurs qui sont déjà en place. L'innovation, elle vient toujours de gens qui sont venus bousculer le marché parce qu'ils se sont dit « c'est complètement stupide ce qu'on fait là, on va faire autrement ». Donc oui, ça ça peut être porteur d'espoir, et puis des fois il y a de l'innovation qui est malheureusement pas porteuse d'espoir. Donc je pense que moi je suis optimiste, l'innovation peut faire avancer les choses, c'est l'homme qui en fait quelque chose de bien ou qui en fait quelque chose de pas bien, c'est différent. Le pouvoir de la peur, c'est quelque chose qui est dans notre société, mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est pas en faisant peur. C'est en encourageant et c'est en montrant tout ce qui est positif. Alors, l'efficacité des solutions individuelles, donc ça j'en ai parlé, elle marche très très bien. Il y a des endroits où elle est encouragée par l'État, il y a des endroits où elle précède l'État. Mais au final, bien souvent, l'État ne va pas être précurseur. C'est rare que l'État puisse être précurseur. L'État a trop peur. Donc du coup, l'État accompagne une fois que la population commence à avancer. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Alors l'hôpital, je ne vais pas vous parler de choses techniques parce que j'y connais rien. Et puis vous allez avoir dans les interventions suivantes des éléments beaucoup plus concrets pour vous. Donc j'ai plus envie de vous parler de ce qui est commun à toutes les organisations. Et moi j'étais dans l'industrie, j'ai ensuite, en 2010, j'ai laissé le côté industriel d'industrie lourde dans lequel j'étais et j'ai racheté une petite entreprise. J'ai rejoint le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, et je me suis aperçu que j'ai beaucoup appris sur moi-même. Et ce que je voudrais vous partager, c'est ce qui est commun à toute organisation et ce qui fait qu'une organisation va être pour moi écologique au sens humain, c'est-à-dire pour les gens qui y travaillent, et qui va faire que l'organisation va être efficiente et efficace. C'est tous les mots qui sont là, c'est de partager dans l'équipe les mêmes valeurs, de partager une même raison d'être, une même efficience, d'avoir une même notion de l'économie et des enjeux économiques, de aussi être très conscient des interactions qu'il y a entre tout le monde, etc. Et donc, dans mon expérience, j'étais ingénieur et puis j'ai évolué vers chef d'entreprise. Et en fait, pour moi, le chef, c'est pas un chef. Et donc, c'est ça que je voudrais plutôt vous dire, c'est que pour moi, le chef, c'est un animateur. Et si l'équipe, elle est animée, elle fonctionne. Si l'équipe, elle est dirigée, elle marche pas. Le cadre de travail, c'est fondamental. Et pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est la raison d'être. Pourquoi on est là, en fait? À quoi on sert? À quoi sert l'hôpital? Si on n'est pas tous d'accord sur à quoi sert l'hôpital, l'hôpital, il ne va pas bien marcher. Et la deuxième chose, c'est de partager des valeurs, qu'on ait des valeurs communes, qu'on respecte des valeurs en commun, et du coup, de là, on va pouvoir avoir des objectifs. La connaissance des interactions, on n'est jamais tout seul. Elle est très importante. On ne fonctionne pas tout seul. Donc, connaître avec qui on travaille et de qui on dépend et avec qui on est en interaction. Et puis, la transparence, c'est pour moi fondamental. On ne peut pas, dans une équipe, fonctionner correctement si tout n'est pas transparent, s'il y a des choses qui ne sont pas dues, pas sues, pas dites ou cachées. Parce que dès qu'il y a des tensions, le manque de transparence va à ce moment-là amplifier les problèmes et va créer la suspicion. Le rôle du chef, c'est d'être au service de son équipe, d'animer, d'aimer son équipe, de prendre soin. Et pour ça, pour pouvoir prendre soin de son équipe, la première des choses, c'est de prendre soin de soi-même. Le chef, il ne peut pas être au service de son équipe, il ne peut pas aimer son équipe s'il ne s'aime pas lui-même. Ça, c'est ce que j'ai appris et c'est vraiment important. Donc la raison d'être, alors je sais que pour l'hôpital, c'est pas facile parce qu'on est dans un pays très hiérarchisé, très centralisé. Et donc établir une raison d'être partagée par tous les acteurs qui sont intéressés par l'hôpital et que cette raison d'être soit partagée par tous, je sais que c'est pas facile. Mais si on arrive à le faire, ça marchera tellement mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que la raison d'être de l'hôpital? Est-ce que c'est d'apporter à toute personne tous les soins connus de l'état de l'art? Ou est-ce que c'est apporter des soins nécessaires non réalisables par l'organisation de santé en ville? Ou est-ce que c'est d'autres définitions? Suivant la définition qu'on prend, on ne va pas agir de la même manière. Alors oui, je sais, c'est pas l'hôpital de Nancy qui va décider quelle est la raison d'être de l'hôpital parce que y a un ministère qui décide de tout. Ça n'empêche que peut-être qu'une équipe locale peut être un peu innovante. Les valeurs qui sont partagées et connues de tous, c'est important quand il y a des difficultés. Comment on réagit? Est-ce qu'on est d'accord pour réagir de telle ou telle manière s'il y a deux priorités qui se contredisent? Est-ce qu'on est d'accord pour réagir de telle manière si on n'a pas les ressources qui permettent de faire ce qu'on voudrait. Tout ça, si on le définit ensemble, le jour où ça arrive, eh ben, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable pour chacun. Et surtout, ça permet à chacun d'être autonome dans son propre travail. Et l'autonomie dans le travail, c'est la satisfaction personnelle de pouvoir faire ce qu'on a à faire sans tout dépendre d'un chef. Et c'est ça qui fait qui donne de la satisfaction quotidienne dans le travail. Le rôle de la direction, c'est pas de diriger, parce que c'est un mauvais mot, c'est de donner la direction. C'est pas pareil. Diriger et donner la direction, c'est pas la même chose. Donc donner la direction, ça veut dire montrer vers où on veut aller, donner le cap. Et si la direction donne le cap en s'assurant que les valeurs sont partagées et que la raison d'être est connue de tous, chacun derrière peut être autonome. Et chacun derrière va pouvoir agir avec ses connaissances, ses envies et sa manière de faire, avec son style. Et ok, oui, Pierre, il va faire d'une manière, Paul, il va faire d'une autre, parce que c'est sa façon de faire. Et alors, où c'est le problème? Pour ça, il faut qu'il y ait une transparence. Il faut que chacun ait connaissance de la globalité, notamment des coûts, des rémunérations, des contraintes, des règles, etc. Et des contraintes des autres, des contraintes des partenaires, des contraintes des autres intervenants. Si on a la connaissance des autres contraintes, on va beaucoup plus être intelligent pour agir comme il faut. Alors, ça c'est aussi vrai dans n'importe quelle structure. Hein. S'il n'y a pas de transparence, il y a de l'inquiétude. La confiance en soi, elle est fondamentale. Pour pouvoir agir, décider et gérer les situations et les conflits et les difficultés quotidiennes, il faut avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, elle ne se décrète pas. La confiance en soi, elle vient si l'environnement nous fait confiance. Elle vient en accès. Alors là, je parle de la confiance en soi qui est indispensable au niveau du chef. Celui qui anime une équipe, s'il n'a pas confiance en lui, il ne va pas pouvoir laisser l'équipe être plus intelligente que lui. Je fais le parallèle avec la voile, je fais beaucoup de voile. Moi, j'adore, en bateau, emmener les gens qui n'ont jamais fait de voile et les laisser faire. Et ça marche super bien, parce que j'ai confiance en moi. Je sais que même s'ils font des trucs qui sont des bêtises et qui ne sont pas prévus, je sais que ce n'est pas grave. Je surveille seulement leur sécurité. Donc le seul moment où je vais intervenir et leur dire « Ah, stop !» c'est si je les vois se mettre en danger. Mais s'ils font en sorte que le bateau, ben, que les voiles vont du mauvais côté, qu'on vire de bord alors que ce n'est pas prévu, etc. Et alors, c'est quoi le problème? Du coup, ils se font plaisir. Parce que du coup, ben, ils essayent, ils apprennent, etc. Et ça marche. Et c'est agréable et ça marche tellement mieux pour chacun. Et c'est pareil dans une entreprise et c'est pareil dans une organisation. Si on dit à tout le monde, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, il n'y a aucun intérêt au boulot. Et puis, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça sera moins efficace, parce que le chef est par définition moins intelligent que la somme des personnes qui sont dans son équipe. Alors, en situation de gestion, le chef, il anime. Il n'y a qu'un moment où le chef, il devient acteur et décideur, c'est quand il est en rôle d'expert, et que, par exemple, le chef des pompiers qui intervient sur un feu et qui va dire « tu fais ça, tu fais ça ». Là, on est en situation où le chef n'est pas chef, il est expert, et il dit ce qu'il faut faire. Donc il y a ces deux notions-là, on les confond très souvent dans les organisations. Donc le chef, il prépare son équipe, il donne les moyens, il donne les objectifs, il veille à la sécurité, et quand il y a des actions à faire à un instant donné, à ce moment-là, il va dire « fais ça, fais ça ». Mais ce n'est pas du tout la même chose que dans la vie de tous les jours. Donc, le bien-être personnel, il crée du bien-être dans l'équipe. L'équipe, elle a pu devenir autonome je parle de l'exemple de mon entreprise, elle a pu tellement devenir autonome jusqu'à la gestion des objectifs, jusqu'à la gestion de leur propre rémunération, jusqu'à décider de tout faire tout seul et la stratégie. Et donc du coup, pour ce qui me concerne, ben, dans les 4 dernières années, l'équipe, il m'invitait 2 fois par an à manger, c'est tout. Et le seul rôle, c'est passer du temps à l'extérieur pour avoir des idées, pour ramener des idées dans l'équipe. Et c'est pour moi le principal rôle d'un chef, c'est d'animer et d'amener des idées, mais pas de diriger, de donner le cap, c'est pas pareil. Voilà, donc pour moi, l'organisation, l'écologie dans l'organisation, ben, ça commence par prendre soin de soi, d'abord et avant tout. De se connaître et de pouvoir ainsi animer l'équipe. Et en conséquence, ben, on est efficient, on est efficace, on se fait plaisir, et on a le sourire de tout le monde. Moi, j'ai été hospitalisé 1 semaine et j'ai été admiratif envers l'équipe parce qu'ils avaient tous le sourire. Et bien du coup, ben, ça m'a donné confiance. Et je suis sûr que du coup, je me suis rétabli plus vite parce qu'il y avait une équipe qui avait le sourire et qui fonctionnait super bien. Donc voilà, je vous laisse avec des interventions beaucoup plus spécialisées.
Merci beaucoup.